Champ contre champ, l'entretien.
Ça a commencé par la boue. Une boue qui monte, qui se colle à tout. Une boue qui ronge et qui rampe. Une boue dont on ne savait pas d'où elle venait et dont même les plus acharnés n'ont pas su se débarrasser.
Moi c'est Maxime, je suis vidéaste avec Célia, on travaille à la base dans un label qui produit du black metal. On est plus producteur de musique, du coup mise en page des disques, des vinyles, réalisation des clips, des captations des concerts, etc. Au sein du label, entre 20 et 30 membres dans le label, et on est quelques-uns à être assez passionnés de jeux de société. Courant 2019, est née du coup cette idée, cette envie de se dire « Attends, ça serait quand même sympa de créer notre propre jeu de société ». Donc bon, je développerai plus tard tout le processus. Mais voilà, du coup, je fais partie de ce noyau de quelques personnes qui se sont lancées dans cette aventure, à dire, allez, on a une structure qui est le label. Ça peut nous permettre de un peu s'amuser, du coup, pourquoi pas créer un jeu, quoi.
Moi, c'est Célia, je suis graphiste de métier et graphiste également dans le label. Et pour Malardant, je suis aussi graphiste. C'est pas moi qui fais les illustrations, moi, je suis plutôt sur la mise en page et la technique.
Et Clément est avec nous aussi dans le studio pour poser...
Pour m'amuser.
Question. Et pour m'amuser essayer surtout. Un peu le jeu. Ouais. Puisqu'on est là pour parler de Malardant, un jeu de société made in Pondy, on va dire, mais aussi Nantes. Et avant de parler de la genèse du jeu, est-ce que vous pouvez décrire le concept du jeu ?
Du coup, Malardant, c'est du coup un jeu de plateau, un jeu d'ambiance à rôle caché. Donc ça peut faire penser à le plus connu, le loup-garou. Mais contrairement au loup-garou, c'est pas juste un jeu d'ambiance avec quelques cartes où c'est beaucoup du coup sur le blabla, la persuasion et juste en fait le fait de parler. Là se rajoute dans Malardant en plus des vraies mécaniques avec plein de cartes différentes, des actions qui peuvent être jouées, un plateau du coup qui va évoluer en fonction des actions des joueurs et surtout un objectif du coup distinct entre les deux équipes qui vont s'affronter, qui sont du coup les fidèles contre les possédés. Les possédés qui sont en nombre inférieur, mais qui ont l'avantage de se reconnaître au début de la partie, comme le feraient les loups-garous dans le jeu du loup-garou de Tire-Solure.
C'est ça, en fait les joueurs autour du plateau tirent une carte, et là ils découvrent s'ils sont possédés ou fidèles.
Tout à fait, il y a une carte qui s'appelle la carte dévotion, qui du coup est le rôle caché. Chacun en reçoit une au début de la partie. Et donc soit fidèle, soit possédé. Et exactement comme au loup-garou, au tout début de la partie, tout le monde va fermer les yeux et seuls les possédés vont ouvrir les yeux et se reconnaître. Les stratégies vont être un peu différentes en fonction des rôles qui sont attribués parce que les fidèles sont en surnombre mais ne se connaissent pas. Donc eux, leur objectif, c'est de faire progresser le plateau de leur côté. Alors que les possédés vont, eux, devoir jouer de manière plus sournoise, plus subtile pour ne pas se faire découvrir tout en faisant progresser le plateau de l'autre côté.
Et les possédés, ils sont possédés par quoi ?
Alors là, du coup, ta question mène justement à parler de l'univers du jeu. Le jeu se base dans un univers médiéval, mais on avait à cœur justement de parler d'un sujet un peu original, on va dire, qui se passe dans cet univers-là, parce que c'est un univers assez éculé, l'univers médiéval, les chevaliers, etc. Donc nous, on a voulu parler de quelque chose qui s'est réellement passé, c'est l'épidémie d'ergotisme. Qu'est-ce que c'est l'ergotisme ? C'est une maladie qui a vraiment existé et qui a sévi beaucoup du coup au Moyen-Âge, même à d'autres époques. C'est une maladie qui vient d'un champignon qui infectait le seigle. Et en fait, à l'époque, les gens consommaient du pain de seigle et du coup tombaient malades en consommant ce pain. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne savaient pas en fait d'où venait cette maladie. Cette épidémie se développait partout, beaucoup de gens tombaient malades, mais les gens ne savaient pas que ça venait du seigle en fait. Et à savoir que les symptômes de cette maladie, outre les gangrènes, les nécroses et toutes ces joyeuseries, il y avait aussi des délires, des hallucinations. Et du coup, pour l'anecdote, il faut savoir que c'est à partir de ce champignon, l'ergot du seigle, qu'a été synthétisé le LSD, des siècles plus tard. Donc on imagine bien un peu dans quel état devaient se trouver les gens. Et du coup, vu que le LSD, les gens ne savaient pas ce que c'était, l'ergot seigle non plus, comment expliquer ces comportements complètement hallucinés ? La première hypothèse, c'était la possession démoniaque, forcément. D'où, le Malardant se passe dans ce contexte-là. Un village médiéval, pouilleux, rongé par l'ergotisme. Et du coup, tout le monde se soupçonne d'être possédé par le diable. Donc vous vous demandez, les possédés, ils sont possédés par quoi? En fait, ils sont juste malades, défoncés, et eux sont sans doute plus malades que les autres.
Et vous avez fait des recherches là-dessus? Est-ce que vous avez lu des choses?
Bah oui, c'est surtout l'illustrateur qui a beaucoup fait de la recherche historique. À l'origine, on partait pas du tout là-dessus, on partait sur quelque chose d'un peu plus classique. Enfin, les premières idées, c'était un truc plus classique, un peu ange contre les démons et tout. Puis on s'est dit, est-ce qu'on n'essaierait pas de chercher les choses un peu plus sympas et moins connues aussi? Et c'est posé l'idée des maladies. Avec le label, on fait régulièrement des projets un peu spécifiques, un peu à côté de la musique, mais toujours de près ou de loin dans le même univers. Et on a fait des bières avec une brasserie Océus, une brasserie du Nord. Et ils ont fait notamment une bière au seigle. Et c'est moi qui ai fait les étiquettes des bières. Et du coup, je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas, le thème des maladies, je vais un peu regarder ce qu'il y a là-dedans. Et là, j'ai vu la maladie, l'argot de seigle, et je me suis dit, super, du coup, je me renseigne un petit peu dessus. Je vois que la maladie porte énormément de noms, notamment le feu de Saint-Antoine, le mal des ardents, des choses comme ça. Mmh. Et la bière, je l'avais appelée la Saint-Antoine. Saint-Antoine étant le saint guérisseur des malades, nous est venue du coup l'idée d'appeler le village Saint-Antoine.
Ah oui, il y a un gros travail sur la toponymie et tout le champ lexical aussi, un peu religieux, un peu sombre. Et donc, c'est un champ lexical qu'on retrouve dans le black metal aussi. Vous travaillez dans un label de black metal. Est-ce que vous pouvez rappeler, d'ailleurs, c'est les Acteurs de l'Ombre?
Oui, c'est les Acteurs de l'Ombre.
C'est une grosse influence pour vous?
Oui. Les thématiques qui nous animaient, c'était bien sûr, ce qui nous rejoignait, c'était des thématiques qu'on retrouve énormément dans le black metal. Donc, l'ésotérisme, l'occultisme, l'obscurantisme, et puis... tout un délire irrationnel, mystique, un peu étrange, avec une imagerie assez sombre, assez gothique, assez marquée, on va dire. Donc voilà, ça c'est vraiment des thématiques qui nous parlaient à tous, et du coup c'est pas du tout étonnant que ça se retrouve très présent dans le jeu, quoi.
C'était peut-être la question que tu avais posée, mais oui, c'est comment tu passes de Burzum au jeu de plateau
Directement, il n'y a pas de lien. Par contre, entre Burzum et l'univers de Malardan, tu as ce goût pour un romantisme médiéval très très fort, et puis un côté un peu décadent, un peu obscurantiste. Voilà, donc ce qui sont des thématiques que tu vas beaucoup retrouver dans le black metal et dans Malardan.
Et sur le côté créatif, le fait d'avoir votre label de black metal sur des questions peut-être de logistique, de gestion aussi, ça a dû peut-être vous aider. Vous étiez déjà rodé un peu à l'exercice
Alors oui et non, on était rodé à l'exercice de la production musicale, mais pas du tout à l'exercice de la production de jeu. C'est-à-dire que c'est le tout premier jeu qu'on fait. Donc non, on était complètement novice dans tout ce qui tournait autour de la production du jeu de société. Du coup, 3 ans qu'on s'est lancé là-dedans, c'est long. Mais c'est le temps qu'il a fallu pour que on apprenne tous ces rouages, en fait.
Et en plus, il y a énormément d'éléments dans le jeu. Comment vous avez fait pour déterminer si c'était des cartes, si c'était des pions, si...
Comme je t'ai dit, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Donc, on est passé par énormément d'étapes. On a raté énormément de choses. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de tests, beaucoup, beaucoup de parties, d'essais avec nos proches. Il y avait un processus de travail où on avait des idées qui fleurissaient. Première étape, on est devant notre idée, on se dit, est-ce qu'elle est bonne déjà? Est-ce qu'elle est sympa? Est-ce qu'elle est intéressante? Ensuite, on essaye d'envisager sa mise en situation. Est-ce que, comment on peut l'appliquer et comment elle peut s'intégrer au reste? Comment elle peut ne pas faire capoter ce qui est déjà en place? Et une fois qu'on valide ça, on la teste, c'est-à-dire qu'on fait des parties, énormément de parties. Et du coup, là, on se rend compte que celle-là, elle marche, elle ne marche pas. Donc voilà, c'est une constante évolution, constant changement. Aujourd'hui, là, la version est définitive. C'est-à-dire que là, les règles sont fixées, sont rodées. On a fait plus de 200 parties, quasiment.
200 parties d'une heure, en plus,
c'est à dire. Ouais, à peu près, ouais.
Ah oui.
Donc non, là, le jeu est dans ses versions définitives. D'ailleurs, c'est pour ça que là, on a lancé le financement participatif il y a un mois déjà. C'est parce que là, on sait que la dernière étape, c'est la seule qui nous manque, c'est la fabrication du jeu et sa diffusion.
Vous avez testé en ligne, donc il a fallu aussi modéliser le jeu.
Ouais, ça c'était pendant le Covid, parce que du coup, pendant le Covid, on ne pouvait pas sortir de chez nous. Du coup, Régis, qui est l'un des auteurs du jeu, est aussi développeur web. Et en fait, il a trouvé un petit module en ligne qui s'appelle Tabletopia. C'est un peu un site bac à sable, entre guillemets, qui permet du coup de modéliser un jeu et des mécaniques. Il a réussi à recréer en fait l'intégralité du jeu sur cette plateforme, qui du coup, pendant le Covid, nous a permis de continuer à le tester, en fait, tout simplement.
On pourrait croire que ça cible des personnes qui aiment le black metal ou le Moyen-Âge, mais en fait, n'importe qui peut y jouer.
Pas du tout. Et la chose qui a été très intéressante, c'était de confronter le jeu au public, à des gens qui ne sont pas proches de nous, qui ne sont même pas proches de nos univers musicaux. Donc, on a fait tester une première fois le jeu aux Utopiales de Nantes. C'est un festival de science-fiction. Il y a une grosse partie jeux de société où il y a beaucoup d'éditeurs et de créateurs de jeux qui viennent présenter leur production. Donc on a pu confronter le jeu au public. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que le plateau était trop grand. Choses comme ça. Que la mise en page du moment des cartes ne convenait pas. C'était difficilement lisible. Même le format, on s'est dit, il faudra peut-être changer, des choses comme ça. Et aussi des mécaniques où les gens prenaient des chemins détournés autres que ce que nous, on avait l'habitude. Des gens qui arrivaient à casser le jeu ou avaient des idées ou des choses qu'on n'avait pas pensées. Et pareil, les gens avaient aussi des suggestions. Ah, on devrait pouvoir faire ci, on devrait pouvoir faire ça. Donc on a pris des choses en compte, on a testé et c'était très intéressant. On a aussi présenté au Festival international des jeux à Cannes l'année dernière. Donc c'était un très gros festival avec des centaines de visiteurs.
On est arrivé avec notre proto sous le bras et puis on s'est posé à une table et puis on a fait jouer les gens, quoi. Mais c'est là que du coup, ouais, on s'est rendu compte, pour répondre à ta question, que le jeu plaisait bien sûr aux fans de métal, mais du coup pas que. C'est-à-dire qu'au festival de Cannes, bon, des métalleux, il n'y en a pas beaucoup, hein. c'est pas le public de base. Donc là, en fait, on a pu confronter le jeu à tout type de joueurs, donc que ça soit des familles avec leurs enfants, que ça soit des joueurs, on va dire, occasionnels, ou des joueurs hardcore qui sont vraiment passionnés par ça et qui du coup sont très critiques. Et c'est là qu'on a été assez contents de nous, parce qu'on s'est rendu compte que le jeu plaisait à tout le monde là-dessus. Mmh.
Donc, en fait, il y a des gens qui sont venus nous dire qu'ils étaient très attirés par notre stand, parce qu'on avait fait faire des bâches et tout, enfin, voilà, on avait décoré notre coin très malardant.
Comme on fait avec notre stand de black metal. Quoi, black.
Et les gens étaient attirés par ça et nous le disaient que ça change visuellement de la mièvrerie, entre guillemets, ambiante habituelle dans les jeux, surtout médiévaux, qui sont toujours très la chevalerie, armure rutilante, la princesse, les choses comme ça, dans un design toujours très très léché, mais au final... les jeux finissent presque partout se ressembler. C'est aussi presque notre force, en fait, que le jeu soit aussi... Et un tel parti pris visuel, en fait.
Alors, vous êtes allé aux Utopiales, qui est un festival plutôt de science-fiction. Mmh. Et donc, c'est pas trop éloigné du jeu, parce qu'il y a beaucoup de références. Tu disais, Célia, avant l'interview, qu'il y a beaucoup de références à des artistes des années 70-80, dont un dont j'ai oublié le nom. Mais
Frank Frazetta.
Oui, et un autre qui a travaillé, c'est peut-être lui, sur Star Wars...
McCarthy, je crois que c'est ça.
Oui,
ouais, c'est ça. Un illustrateur qui est une des inspirations du coup de Gibbs, notre illustrateur du coup pour le jeu.
Donc, Gibbs, c'est le nom de l'illustrateur.
C'est ça, tout à fait.
Qui a fait beaucoup de recherches aussi. Mmh. Par exemple, on regardait les cartes tout à l'heure, il y en a une terrifiante d'un personnage avec son bras greffé sur son nez, et c'est quelque chose qui a réellement existé.
Oui, tout à fait. Ouais, à l'époque médiévale, la médecine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, oui, pour greffer du coup un nez cassé, par exemple, il n'était pas rare qu'on utilise la peau de l'avant-bras et que le temps de la cicatrisation, la personne restait avec son avant-bras accroché à son nez pendant plusieurs semaines. Un des pouvoirs qui est utilisable dans le jeu est le pouvoir de greffe, qui est du coup une mécanique bien précise. Mais l'illustration qui représente cette carte, c'est effectivement un personnage avec la peau de son nez accrochée à celle de son avant-bras, qui dégage quelque chose d'un peu morbide, mais en même temps qui est très ancré historiquement. Quoi.
Et justement, puisqu'on parle des cartes, est-ce que tu peux, Maxime, lire et décrire une des cartes des personnages du jeu ?
J'ai la nonne dans les mains. Elle était devenue tout entière une prière, une seule et grinçante prière, qui craquait des os et claquait des dents, qui crachait et qui sifflait entre 10 doigts serrés comme les pierres du couvent.
Ça donne la couleur.
Un peu.
Et puis sur l'illustration, la nonne est particulièrement sympathique.
Ouais, j'adore la nonne.
La nonne est aveugle. Donc elle prie avec, devant sa Bible, avec une grosse bougie sur la Bible. Et notre illustrateur s'amusait à cacher des petites choses parfois dans les illustrations. Ah. Notamment, on peut voir en fond de cette carte le tableau de Jésus, mais qui a été restauré. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça.
Ah, au Portugal.
Oui, quelqu'un qui avait restauré.
Très très mal restauré.
Qui avait très très mal restauré une peinture du Christ. Et ce petit clin d'œil justement au fond de la carte.
Ouais, on s'est permis des petits anachronismes, mais juste pour faire des blagues, quoi. C'est des petits trucs cachés comme ça sur les illustrations. Je sais pas si tu veux la voir.
Un peu de légèreté dans l'univers un peu sombre.
Mais en fait, c'est ça. Enfin, oui, pour venir, c'est intéressant que tu parles de la légèreté parce que oui, le jeu se base sur un univers qui est sombre, qui est un peu oppressant, mais il n'est pas non plus dépourvu d'humour. Et du coup, on a aussi voulu ajouter un peu un côté grotesque sur plein d'aspects du jeu. parce que c'est aussi ça, Malardan, c'est un village médiéval qui est, on va dire, miséreux, qui galère, qui est en proie à plein de choses négatives, mais qui du coup est un peu bête, un peu pâteau, un peu décalé du coup, un peu grotesque. Donc on a aussi voulu retranscrire cet aspect-là dans le jeu, quoi. Ça fait un peu rire jaune, pour dire à certains, mais ça nous est cher, quoi.
Puis quelque part, ça reflète aussi là, un peu l'esprit des parties, généralement. C'est beaucoup la foire d'empoigne, les gens rient beaucoup aussi. Mmh. Ça reflète un petit peu aussi ce côté-là. Mmh. On parle de quelque chose de très sombre, mais en même temps, on se marre beaucoup.
C'est ça.
Et pour favoriser l'immersion, c'est important de dire quand même, comme vous êtes un label en plus à la base, c'est qu'il y a une bande-son qui accompagne la partie.
Tout à fait. En fait, voilà, on voulait rajouter un peu notre spécificité de passionné de musique dans notre création. Du coup, on n'a pas pu s'empêcher de faire appel à deux artistes et leur demander de composer chacun un album entier pour le jeu. Au niveau musical, c'est deux artistes qui sont très proches de l'univers black metal, mais qui évoluent aussi dans un genre musical qui est moins connu, mais qui est assez proche, en fait, au niveau de son imagerie, au niveau de ce que ça dégage du black metal, qui s'appelle la Dungeon Synth. En fait, la Dungeon Synth, c'est une musique qui est majoritairement électronique, assez minimaliste, pour que les gens se rendent un peu compte de ce que c'est des musiques que vous pouvez retrouver dans des vieux jeux vidéo, les vieux dungeon crawlers des années 80, les premiers Diablo par exemple, les premiers Zelda, c'est une musique un petit peu, qui évoque un peu cet univers médiéval fantasmé, avec des moyens techniques assez limités. C'est ça aussi un des points communs qu'on a avec le black metal. on ne voulait pas de hurlements et de guitares saturées pendant les parties de jeu. Du coup, on a pris le parti de faire composer des albums de Dungeon Synth. Et ça marche très bien, parce que les deux artistes, Ivermore et Korbach, de leur pseudo, ont fait un travail fantastique. Donc, on est très contents.
Puis on a également, en début d'album, Quentin Fourreau, du coup, le conteur qui a écrit sur les cartes, qui compte aussi un peu le début, en fait...
Qui met en place l'or.
Qui a écrit un petit texte à sa manière, du coup, avec une prose très agréable à écouter, qui du coup place le décor, en fait, de Malardan.
Saint-Antoine. C'est un village au fond d'un âge que les chroniques n'osent pas mentionner. Il n'est tracé sur aucune carte, car il gît dans un creux du pays où toutes les boues et les pluies viennent se loger pour y moisir. J'y étais, et j'y suis encore. Et de l'église au champ, des rues au sentier, du puits au lavoir, je vois cette paroisse perdue se faner et se décomposer comme un cadavre défiguré par les jours et les nuits qui lui passent dessus.
Nous sommes avec Célia et Maxime du label musical Les Acteurs de l'Ombre. Ils nous parlent de Malardan, un jeu de société qu'ils ont créé avec d'autres membres du label.
On peut expliquer comment fonctionne le jeu. Du coup, le village de Saint-Antoine, le village dans lequel se déroule Malardan, est en proie à quatre fléaux qui le menacent de destruction. La malpeste, la guerre, la famine et la folie.
Un peu les cavaliers de l'apocalypse.
Un petit peu, si ça peut évoquer ça, ouais. Et en fait, ces fléaux... sont du coup ceux qui menacent de détruire le village, et du coup l'objectif des villageois qui sont fidèles, ça va être de sauver le village de ces fléaux-là, et l'objectif des possédés, ça va être d'accélérer ces fléaux-là pour qu'ils détruisent le village. Ces quatre fléaux sont représentés du coup sur le plateau par quatre pions de quatre couleurs différentes qui se trouvent du coup sur des colonnes. Et ces colonnes ont une extrémité qui est lumineuse, qui s'appelle la rédemption. On peut voir,
donc c'est le haut de la croix inversée.
C'est
le haut du plateau.
Le haut du village.
Et de l'autre côté, les ténèbres, c'est là où du coup se trouve le mal des ardents, qui est en fait un petit muret qui s'avance à chaque tour et qui du coup réduit le plateau à l'avantage des possédés à chaque tour. Donc ça, c'est vraiment pour symboliser cette épidémie d'ergotisme qui progresse de manière insidieuse.
Et ça fonctionne du coup avec un nombre de tours défini?
Le nombre de tours n'est pas défini, en fait ça fonctionne par tour. Les joueurs ont dans leurs mains des cartes prières. Donc, attends, je peux te montrer ça?
Ouais.
Donc les cartes prières, ce sont ces cartes-là avec lesquelles les joueurs vont jouer et vont surtout influencer le plateau. Donc on peut voir sur les cartes prières que sont représentés les quatre fléaux, pas forcément les quatre d'un coup, mais voilà. Soit on y voit le symbole qui représente le fléau, dans quel cas ça veut dire que cette carte fait reculer le fléau.
C'est-à-dire le fléau, c'est quel symbole là qu'on voit?
En fait, on...
Ça, c'est tous les fléaux. Voilà.
Je rappelle, ouais, le vert, c'est la malpeste, le rouge, c'est la guerre, le jaune, c'est la famine, et le bleu, c'est la folie. Du coup, ces cartes prières vont faire avancer ou reculer les fléaux. Donc, quand une carte prière représente, par exemple, le symbole de la malpeste, ça veut dire qu'elle va le faire reculer, c'est-à-dire qu'elle va le faire avancer du côté juste, du côté lumineux. Et si par contre, sur la carte prière, on voit un pentacle qui est de la couleur du fléau, donc un pentacle vert en l'occurrence, ça veut dire que là, à l'inverse, cette carte fera progresser le fléau vers le mal des ardents.
Donc il y a quand même une petite partie d'aléatoire en fonction du tirage de cartes.
Bien sûr, chaque joueur commence avec 3 cartes prières dans sa main. Et comment se passe un tour de jeu? Un des joueurs est désigné juge. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, dans le lore de l'histoire, on s'imagine que le village se réunit en conseil parce qu'ils constatent que là, ça ne va pas et qu'il faut faire quelque chose. Donc, ils se réunissent en conseil. Un des villageois est choisi comme étant le juge, étant celui qui va décider qui va aller prier cette nuit-là pour tenter de sauver le village. C'est pour ça que ça s'appelle des cartes de prière. Le juge va demander à chaque villageois contre quel fléau il souhaite prier pour cette nuit-là. Et là, du coup, chaque villageois va placer une carte prière face cachée devant lui, en indiquant un fléau contre lequel agit sa prière. Il peut bien évidemment mentir.
Il y a quand même un jeu de persuasion.
Tout à fait.
Il y a le bluff.
Il y a évidemment du bluff. C'est-à-dire que les possédés, eux, leur objectif, c'est de se faire choisir en proposant du coup des cartes qui sont très néfastes. Donc voilà, le juge va demander à tous les villageois de proposer une carte prière. Chaque villageois va en mettre une face cachée devant lui et indiquer un fléau contre lequel agit sa carte. À la suite de ça, le juge va choisir 3 villageois, seulement 3. Il va prendre leurs cartes face cachée, les mélanger et les révéler sur le plateau. Et c'est le cumul de ces 3 cartes-là qui va faire progresser les jetons du plateau. Donc on peut imaginer un tirage avec 3 cartes où la malpeste va reculer de 2 et où la guerre va avancer de 3, etc. Et suite à ça, je rappelle que les cartes ont été choisies face cachée, mais on sait quel villageois a été choisi. Donc, suite à ça, du coup, des suspicions vont commencer à naître, en fait. C'est-à-dire que, toi, t'avais dit que t'allais mettre une bonne carte contre la malpeste, mais là, j'en vois pas, est-ce que t'aurais pas mis mon mytho, etc. Quand le tour se termine, le joueur suivant est juge. Et ça tourne comme ça.
Ça tourne.
Voilà.
Est-ce qu'on peut exclure un joueur parce qu'on le suspecte?
Alors oui, justement. Il y a du coup une troisième phase, entre guillemets, sur un tour qui est optionnelle. C'est-à-dire qu'on voit sur le côté du plateau qu'il y a des numéros, enfin des chiffres. Le mal des ardents, qui est ce mur qui avance à chaque tour, va du coup toujours se retrouver en face d'un numéro. Et si jamais, sur le tirage total des 3 cartes, il y a autant ou plus de pentacles que le numéro en face duquel est le mal des ardents, il y a une troisième phase qui se déclenche, et ça se traduit en que là, les villageois se rendent compte que quelqu'un s'est foutu de leur tronche, et que le tirage est pourri. Et ça déclenche une phase de condamnation, où là, les joueurs vont pouvoir voter contre un autre joueur qui soupçonne être possédé. Si un des joueurs obtient la majorité des votes contre lui, il devra se défausser d'une de ses cartes prières, ça veut dire qu'il continuera la partie avec une main amputée, entre guillemets.
Ah, oui,
voilà. Il n'est pas éliminé tout de suite. Il est juste, on va dire, il perd un point de vie, si on veut dire ça comme ça. Il sera éliminé si il est condamné une deuxième fois dans la partie. On a choisi ça parce que ce qu'on n'aimait pas dans le loup-garou, au-delà du fait qu'on trouvait le jeu assez pauvre mécaniquement, c'était le fait que pour un joueur, la partie commence et au bout de 5 minutes, elle est finie. Et du coup, il regarde les autres pendant 30 minutes s'amuser pendant qu'il s'ennuie. Donc ça, on a vraiment voulu éviter ce truc-là complètement, d'où cette mécanique de point de vie, entre guillemets. Ce qui fait que, vraiment sur les centaines de parties qu'on a fait, il y a évidemment des joueurs qui se font éliminer, mais ça arrive toujours d'aller dans le dernier tiers ou le dernier quart de la partie. Donc c'est jamais très grave.
Il existe une carte power qui permet de ressusciter un autre joueur.
Voilà.
Pour un tour. Donc il a le droit de voter, de prier. Mais on enjoint aussi les gens, même s'ils sont éliminés, à continuer à participer quand même, d'accuser les gens.
Ça, ils peuvent juste plus jouer de cartes.
Un peu comme un fantôme qui vient susurrer à l'oreille.
Ah, c'est ça.
Est-ce qu'on a des pouvoirs spéciaux en fonction des rôles qui sont attribués aux joueurs?
Alors,
enfin, je dis des pouvoirs, mais c'est peut-être des petites aptitudes.
Alors oui, c'est-à-dire qu'en fonction de la couleur du villageois qu'on incarne. En fait, la couleur, il y a 3 couleurs différentes, le bleu, le rouge et le vert. Et en fait, ça représente la caste à laquelle appartient le personnage. Les bleus sont les serviteurs, les verts sont les parias et les rouges sont les autoritaires. Ça n'a aucune importance dans les mécaniques du jeu, hein, sauf qu'on se rend compte que les pouvoirs ont également ces couleurs-là, en fonction des pouvoirs. Du coup, il y a une mécanique de repioche de pouvoirs, c'est-à-dire qu'à chaque fin de tour, si un joueur a joué un pouvoir, il va en repiocher un. Et il a un petit avantage, s'il a joué un pouvoir de la couleur de son personnage, il va pouvoir repiocher un pouvoir supplémentaire. On sait une mécanique qui est vraiment, comment dire, négligeable, entre guillemets, sur l'impact sur le jeu. Mais voilà, on a voulu donner un petit bonus, entre guillemets, si on joue un peu roleplay. C'est-à-dire que voilà, si on joue des pouvoirs qui sont en accord avec son personnage. Mais quel que soit ton personnage, tu peux jouer n'importe quel pouvoir, il n'y a aucune bride là-dessus, quoi. La partie, en fait, se termine quand un des quatre fléaux atteint une des extrémités du plateau, tout simplement. Si un des jetons atteint du coup la rédemption, le côté lumineux du plateau, les fidèles ont gagné parce que le village est sauvé. Et si jamais un des jetons passe de l'autre côté du mal des ardents, le village est détruit, les possédés ont gagné, tout simplement.
Et ça se joue à combien ?
Ça se joue de 5 à 8.
Si on souhaite tester le jeu, est-ce que c'est possible toujours de le faire en ligne ? Est-ce qu'on peut le faire en physique ?
Alors, oui et oui. C'est-à-dire qu'il y a, peu de temps, d'ailleurs, on a du coup ouvert au public la version numérique du jeu. Donc voilà, pour y avoir accès, bah, il suffit de nous suivre sur les réseaux. Et puis là, pendant le dernier mois de la campagne, il y aura même plusieurs sessions qui seront organisées en notre présence. Les gens pourront jouer avec nous, on pourra du coup rentrer plus dans le détail des règles. Pour jouer en physique, eh ben, du coup, pendant la campagne, on fait tourner à ceux qui le veulent, des prototypes. Donc à tous ceux qui ont des associations, par exemple, de joueurs, ou alors des boutiques, des bars à jeux. Voilà, tous ces gens qui souhaitent du coup faire découvrir le jeu à leur public ou à leurs adhérents peuvent nous envoyer un message et on peut leur faire parvenir un prototype.
Donc on peut vous retrouver quand même dans Pontivy et peut-être qu'on pourra jouer avec vous à ce jeu, à Malardan. Je rappelle qu'on était avec Célia, Maxime pour nous parler du jeu Malardan. Et donc on a hâte qu'il sorte en format physique pour tout le monde. Merci à vous d'être venus dans le studio.
Merci.
Vous pouvez toujours précommander le jeu Malardan sur la cagnotte Ulule. Et pour plus d'informations sur le jeu ou le label, vous pouvez aller sur le site des Acteurs de l'Ombre. Toutes les musiques de cet entretien ont été réalisées par Corbac et Hiver.